bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors toujours pareil, un des épisodes qu'on écoute alors que le climat il est pas top franchement là pour s'entraîner. Je sais qu'il y en a beaucoup. En fait, la problématique que je vois tout doucement, alors pour ceux qui s'entraînent dans les salles de sport, enfin surtout pour les pratiquants de musculation. Qui ont mis des années finalement à organiser des routines d'entraînement, des horaires, c'est-à-dire qu'ils allaient à la salle après le travail ou autre. Là, ça commence à poser sérieusement problème parce que ces personnes-là qui avaient mis un certain nombre de mois à se routiner, à s'habituer à ça, eh ben la situation actuelle vient un petit peu bousculer ça. Et moi, j'aimerais quand même vous dire une chose, c'est que enfin, faites-moi confiance au moins sur une chose, n'ayez vraiment pas d'a priori sur l'entraînement à la maison. Je sais que quand moi j'ai démarré l'entraînement, même au bout de quelques années d'entraînement, je m'entraînais en muscu à la salle, hein, comme toi certainement, ou comme, je sais pas, enfin un petit peu tous ceux qui s'entraînent en salle, et j'avais quand même cette appréhension de l'entraînement à la maison, où je me disais j'arriverai jamais à faire aussi bien. En fait, je pense que l'idée de l'entraînement en salle de sport, c'est un contexte beaucoup plus que synonyme d'efficacité. Alors, pourquoi je vous explique ça comme ça ? Parce que si vous voulez, l'entraînement en salle, c'est un entraînement qui permet de ne pas avoir à réfléchir. Bon, on réfléchit quand même au programme du jour, ok, mais en fait, on se glisse dans un appareil. Et on exécute le mouvement, la fonction première de l'appareil, par exemple, pour bosser, je sais pas, les cuisses. On se glisse dans la presse à cuisses et on pousse, voilà, on travaille ses cuisses. Donc il y a une forme de facilité, de confort à s'entraîner en salle. C'est quand même paradoxal hein, de dire qu'on va forcer dans le confort. Autre chose, il y a l'environnement. L'environnement, ça j'en parle à chaque fois, enfin très régulièrement, quand vous vous apprêtez à aller vous entraîner en salle de sport, il y a un trajet, donc un temps de trajet, que ça soit de votre boulot à la salle de sport ou de chez vous à la salle de sport. Ce trajet agit sous forme de conditionnement. C'est-à-dire que durant le trajet, c'est le trajet qui vous amène à la salle de sport. Donc au niveau cérébral, au niveau des sens, des sensations, il y a comme un pré-échauffement à l'entraînement. C'est-à-dire que vous savez que cette action précède l'entraînement, le trajet. Et autre chose, il y a l'environnement direct, c'est-à-dire que quand vous passez la porte du club de gym, vous avez directement cette ambiance, c'est les odeurs de la salle, les bruits de la salle, les gens, vous les voyez qui s'entraînent, vous voyez le coach ou la coach ou la personne qui est à l'accueil, et les vestiaires, l'odeur des vestiaires, etc., etc. Et tout ça, c'est du conditionnement. En fait, on est conditionné par des sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, et ce qu'on ressent aussi également au niveau des tripes, quoi. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que en l'absence de tout ça, on part sur un terrain neutre quand on s'entraîne à la maison. C'est-à-dire qu'on doit recréer tout ça. Et la problématique, c'est que, on a tout un tas de sensations, de sens qui sont activés quand on est chez nous et qui sont pas forcément ceux pour s'entraîner. C'est-à-dire qu'on va avoir ceux pour se détendre, on va avoir ceux pour cuisiner, ceux pour faire du télétravail peut-être, et d'ailleurs le télétravail ça rentre aussi dans cette catégorie. On va avoir toutes ces choses-là, regarder la télé, pour certains ça va être jouer à la console de jeu, d'autres ça va être lire un bouquin, et on est conditionné pour ces actions-là depuis un certain nombre de mois ou d'années dans le lieu dans lequel on vit. Mais en fait, on n'a aucun, enfin pour les personnes qui s'entraînent pas en salle, enfin qui s'entraînent en salle, pardon, on n'a aucun sens activé, donc de point de repère pour se conditionner à l'entraînement à la maison. Et en fait, c'est ça qui pose problème. Parce que moi, je vais vous le dire clairement, hein, l'entraînement à la maison, on n'a pas le luxe de pouvoir faire tous les appareils, d'avoir une poulie vis-à-vis, une super presse à cuisse, enfin toutes ces choses-là, à moins que vous ayez un super home gym, mais bon, ça vous concerne plus. Mais on a du mal, et moi-même, j'avais du mal à croire qu'avec des haltères, un banc, des élastiques, une barre, des chandelles, par exemple, des choses comme ça, ou un ou deux kettlebells, on n'a pas l'impression que ça va être aussi efficace. Et pourtant, c'est faux. C'est pour ça que, vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'insiste un petit peu là-dessus parce que j'en suis convaincu, parce que je pratique, en fait, à la maison. Hein. C'est pour ça que moi, toute la vague Covid, j'avais un an d'avance avant que la Covid-19 arrive chez nous. Et j'avais déjà à peu près un an d'entraînement à la maison, donc j'étais déjà plus ou moins prêt à ça. Mais il y a autre chose sur lequel je voudrais appuyer rapidement, c'est l'ennui. Vous avez dû ressentir... De plus en plus, en tout cas avec la période Covid, là, qu'il y a de l'ennui. C'est-à-dire qu'on ressent de l'ennui assez régulièrement, un ennui parce qu'on est privé de liberté, entre guillemets. À partir de 21h, on ne peut plus sortir. Il y a tout un tas de choses comme ça qui se passent où on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. La salle de sport, elle est fermée certainement autour de chez vous. Et donc, bon, ça pose ces problèmes-là, on se met à s'ennuyer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, mais moi, personnellement, je préfère aujourd'hui ressentir... Enfin, comment dire ? Je trouve que c'est presque moins douloureux de se faire mal physiquement. Donc, quand je dis se faire mal physiquement, c'est se cogner ou se blesser ou autre, que de s'ennuyer. L'ennui, quand je parle pas de l'ennui qui dure 5 minutes et on trouve un truc à faire. Hein. Je parle de l'ennui profond. L'ennui, en fait, qui colle à la peau, quoi. Où on se réveille le matin, on se fait déjà chier. Ça, pour moi, c'est le pire truc qui puisse exister. Parce que c'est là où il y a toute la démotivation qui s'installe. On sent qu'il y a rien qui nous anime, etc. Et cette fois, alors c'est pas de la dépression. Hein. Je parle vraiment à petite dose l'ennui. Hein. Faites bien la différence entre les deux. Enfin, je pense que ceux qui ont déjà vécu une dépression, ils comprendront la différence. Et cet ennui, il est, en fait, il inhibe complètement l'énergie. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans une période où on sent que on tourne un peu en rond au niveau psychologique, on n'arrive pas à trouver un truc à faire, on sent qu'il y a une forme de lourdeur, de mollesse, d'incapacité, de manque de performance, on sent qu'on se dégrade tout simplement. Et en fait à ça, moi je trouve que une des meilleures solutions, et j'en parle ça franchement depuis vraiment vraiment des années, c'était bien avant toutes ces histoires de confinement et tout, l'entraînement. Le fait de s'entraîner, alors je dis pas de faire le meilleur entraînement du monde, mais de s'entraîner, par exemple, de faire des pompes, de faire des tractions, de faire des abdos, de faire du cardio si c'est possible, en fait, de vous bouger, de faire circuler le sang, de faire quelque chose d'intense au niveau physique, et bien vous allez voir que vous allez balayer cette sensation. Vous allez vraiment, enfin, testez-le. Quand vous êtes dans une période un peu de mollesse comme ça, d'ennui, de remise en question, de « oh là là, ça sert à rien de reprendre le sport parce que les salles sont pas ouvertes », ne soyez pas dépendant de ça. Mettez-vous en route, quel que soit le niveau, même si vous êtes culturiste, je sais qu'il y a des culturistes qui m'écoutent et qui sont très habitués aux salles de sport et tout ça, et qui là, franchement, ils sont un petit peu perturbés par ça. Mettez-vous le compte à la maison. C'est possible et je vous garantis que quand vous avez fait une séance de sport à la maison, vraiment intense, c'est comme cette sensation d'avoir fait le job. C'est-à-dire que même la journée, elle peut être pourrie après, vous avez fait le job, vous avez fait ce qu'il faut. Et franchement, je veux pas avoir un discours de motivation, etc., parce que c'est pas mon but, mais c'est vraiment un discours d'expérience. L'idée de se mettre un peu, on va dire, dans le rouge, quelle que soit la forme d'entraînement qu'on utilise à la maison, hein, c'est pas même quelqu'un qui pourrait sortir faire son footing ou autre, de se mettre dans le rouge, franchement, c'est quelque chose, c'est vraiment un gros coup de karcher contre l'ennui, ce sentiment de pas être capable de faire quelque chose de bien, de stimulant, etc. Donc ça déjà, ça peut être une des raisons pour vous mettre au sport, au sport à la maison, parce que là, on va quand même traverser, déjà, on a changé d'heure. On va traverser la période froide, on va traverser beaucoup de moments qui seront propices à rester à la maison. Donc, mettez-le directement en place, parce que et n'attendez pas en fait d'avoir le bon matos quand j'aurai un espace à m'aménager, par exemple. Enfin, vous savez que là j'ai posté là sur mon Instagram, allez voir, j'avais posté quel est votre home gym préféré, j'avais mis 3 images, donc allez voir sur mon compte Instagram, c'est Fitness Smith. Vous allez voir sur mon compte, vous avez la photo. Il y a eu beaucoup de réactions parce que les gens, ils aiment bien. D'ailleurs, il y a eu c'est le numéro 1 qui a récolté le plus de votes positifs, je crois. Alors, ce qui est marrant, le 1 pour les hommes, le 3 pour les femmes. Donc, j'ai un petit peu regardé, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Enfin bon, bref. Si vous voulez, moi j'adore l'idée d'être indépendant sur l'entraînement, c'est-à-dire de ne pas avoir à dépendre d'une salle ou autre. C'est mon point de vue. Maintenant, j'ai envie de m'entraîner à la maison. C'est comme ça, j'ai pris cette décision. Peut-être que je reviendrai à un entraînement en salle, mais aujourd'hui, si vous voulez, la situation des salles de sport, alors je parle pas aujourd'hui avec la Covid-19, hein, je parle aujourd'hui en règle générale, hein, depuis déjà 2-3 ans, j'avais remarqué ça. Les ambiances des salles d'entraînement, je trouve qu'elles se sont, je vais pas dire détériorées, mais elles ont évolué. C'est-à-dire qu'elles se sont adaptées à quelque chose. Alors peut-être que je suis devenu un vieux con à 33 ans, hein, c'est peut-être le cas, mais je trouve qu'elles ont évolué dans un sens qui ne me correspond pas réellement. Moi, j'ai connu des salles d'entraînement où le patron était coach et le patron n'était pas forcément le meilleur commerçant. C'était plutôt un bon coach qui était là pour venir nous voir et qui disait « Bon alors, est-ce que tu tentes de mettre 5 ou 10 kilos de plus sur ta barre aujourd'hui ?» Il y avait également des relations qui se créaient dans les salles, donc c'est-à-dire qu'on rencontrait des personnes de tous horizons. On pouvait arriver et dire « Tu fais quoi aujourd'hui ? Tu fais les pecs ? Bah, je les fais avec toi. » Ou « Tu fais les cuisses ? Allez, je fais les cuisses avec toi. » Il y avait une forme de soutien lors de séances difficiles. Je prends l'exemple des cuisses. On trouvait toujours quelqu'un. Allez, c'était plus facile à deux, quoi, de se mettre un petit peu le compte au squat ou à la presse ou autre quand on avait quelqu'un d'autre. Mais on le connaissait pas forcément. Il suffit juste d'avoir échangé une fois avec pour dire bah, « Demain, on se fait les cuisses ensemble. » Ou « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Théo ?» Moi, je me rappelle combien de fois j'ai eu cette phrase-là. C'est des gens qui me disent ah, « Tu fais quoi aujourd'hui, Théo ? Allez, je m'entraîne avec toi. » Parce que les gens, ils savaient que j'aimais bien me mettre le compte. Donc, quand ils voulaient se mettre le compte, ils venaient s'entraîner avec moi. Mais ce n'était pas forcément des amis, ni des potes, même pas des collègues de travail ou autres. C'était vraiment des personnes de la salle, comme ça, avec qui j'avais déjà échangé une ou deux fois, qui s'intégraient à ma séance. Et ça, je trouve que ça s'est perdu. Alors ça existe encore dans certaines salles, mais elles se font rares. Mais en tout cas, les nouvelles salles que j'ai pu tester, il n'y a plus ça. Même, et ça me déchire un peu le cœur, mais même ces salles pseudo cross-training et tout ça, je trouve que ça s'est un petit peu perdu. Il y a quand même ce côté un petit peu narcissique, indépendant, chacun dans son coin, avec ou sans les écouteurs sur les oreilles, mais vraiment chacun fait son petit truc et personne ne se mélange. Et pourtant, sachez une chose, je suis plutôt, comme dirait Lilian si tu m'écoutes, il m'appelle un peu Lucky Luke parce que je suis un peu le cow-boy solitaire, moi, hein. Je suis quand même assez fermé, assez dans mon coin, surtout quand je m'entraîne. Mais quand même, j'avais cette petite ouverture avec les gens, de pouvoir partager une bonne séance, je sais que c'était plutôt positif. Et bon, en fait, c'est pour ça que moi j'ai commencé à m'entraîner à la maison. Donc là, je vous fais un long monologue là-dessus, hein, mais de toute façon, mon podcast c'est un monologue. Mais j'ai retrouvé presque, si vous voulez, je ne vois plus. Pour moi, m'entraîner à la maison ou m'entraîner en salle en 2020, là, enfin en tout cas, si on enlève l'histoire du Covid, enfin de la Covid, je trouve que il n'y a pas énormément de différence parce qu'on était déjà très indépendant, très solitaire en salle. Bah en fait, on répète la même chose à la maison, quoi. Sauf qu'à la maison, bah vous pouvez avoir, si vous avez une copine ou si vous avez un mari ou quoi, vous pouvez vous mettre au sport avec, ou même un enfant, un ado au foyer, bah vous pouvez peut-être vous mettre au sport avec, ça peut créer une certaine dynamique. Ou même avoir un voisin avec qui vous entendez bien, allez, on se fait une séance où chez toi, chez moi aujourd'hui, de se trouver une petite émulation comme ça. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'ennui, vous savez, ce sentiment qu'on a tous en ce moment-là, ce sentiment un petit peu de on est privé de sortie, on est puni, eh ben, garantie que l'entraînement vous libère de ça. Et même quand vous sentez que c'est pas bon, que c'est pas le moment, vous sentez que votre corps, il est pas prêt à ça, je vous garantis que plus votre corps vous envoie ces signaux-là, plus ça veut dire que vous êtes resté peut-être trop longtemps en statique, assis, allongé sur le canapé ou autre, et plus c'est le moment en fait de vous bouger, quoi. Donc bon, l'entraînement à la maison, je vous garantis que ça fonctionne. Enfin bon, allez voir mes photos sur Instagram, ceux qui sont les plus sceptiques. J'aime pas donner des preuves comme ça, mais bon, il y en a qui aiment bien voir des photos. Vous pouvez très bien vous entretenir. Et encore une fois, n'attendez pas, oui, c'est là où je voulais en venir, n'attendez pas d'avoir le home gym parfait, le home gym idéal, le home gym de rêve. Parce que oui, on a besoin de rêver. Moi, j'ai des rêves aussi d'avoir le super home gym avec vous savez, j'ouvre une porte de garage, un garage à double entrée, là. Vous savez, ces grandes portes à l'américaine où on peut mettre deux voitures de front. Et un côté le home gym, l'autre côté une vieille bagnole de collection, deux trois canapés en cuir, enfin deux trois fauteuils en cuir, une petite table pour jouer au poker avec les potes, voilà, un peu l'idée du repère masculin, on va dire un peu viril. J'adore ça, mais je vais pas arrêter de m'entraîner tant que j'ai pas ça. Je préfère commencer à m'entraîner directement. Et puis dites-vous une chose, c'est que moi, enfin, c'est un des abonnés qui a appelé ça un home gym minimaliste, c'est ce que je fais moi, parce que je m'entraîne dans mon salon et en fait je pousse mon canapé, je pousse la table basse, hop, je sors ma barre, mes haltères, etc. et je fais mon entraînement. Quand on est capable de faire ça, tout ce qui va arriver ensuite sera mieux. Je veux dire, je vis pas dans un manoir, je vis pas dans une super villa, je vis dans un appartement, certainement comme beaucoup de personnes. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à m'entraîner dans cette configuration-là. Je me laisse pas le choix, donc c'est-à-dire que mes achats pour mon équipement ont été réfléchis. C'est-à-dire oui, mais je peux pas m'amuser à prendre par exemple une super machine, comment ça s'appelle cette marque Power Tech. Je peux pas parce que je vais pas la laisser au milieu de mon salon. J'ai pas envie de transformer mon logement en salle de sport. En fait, moi, mon but c'était de le transformer en salle de sport. Sur mesure, c'est-à-dire que sur mesure et pour une heure de temps et après pouvoir remettre toute la configuration initiale d'un salon normal en un clin d'œil. Et donc du coup, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais ça prend du temps et tout ». Non, non, non. Moi, quand je prépare mon salon pour m'entraîner, ça me prend moins de 5 minutes. C'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, mon salon est transformé en salle de sport. Combien de temps il vous faut pour aller à la salle de sport ? Combien de temps il vous faut pour vous changer, etc., dans les vestiaires et commencer votre séance de sport, le temps de trajet et tout. Même si vous avez la salle de sport dans la rue, je vous garantis que moi, je vais plus vite pour démarrer ma séance que quelqu'un qui veut s'entraîner, même si la salle est en face de chez lui. C'est très rapide. Et en fait, ça, c'est une fausse excuse de dire « Ouais, mais ça prend du temps ». Non, non, non. Le temps, c'est vous gagnez du temps à vous entraîner chez vous. Il y a un gain de temps énorme. Et en plus, vous avez le luxe de pouvoir vous entraîner après 21h, ce qui est quand même sympa en ce moment, et avant 6h du matin, ce qui est aussi sympa en ce moment, vous avez cette liberté-là. Bref, je m'arrête là pour ce sujet-là. Je voulais juste vous faire une petite... une petite note par rapport au podcast. Alors, je sais pas si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Moi, j'adore Apple Podcast. J'écoute quasiment tous mes podcasts sur cette plateforme-là et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Apple Podcast, finalement, c'est de l'actualité. Pourquoi je dis c'est de l'actualité ? Parce que vous regardez bien, vous allez voir que... alors, je sais pas si vous êtes podcasteur ou juste auditeur, mais vous allez voir une chose, c'est que les anciens épisodes sont supprimés et remplacés par les nouveaux. C'est-à-dire que Apple Podcast ne garde pas l'intégralité des épisodes sur la plateforme. Donc, si par exemple, vous allez, moi, dans mes podcasts, vous n'allez pas retrouver les podcasts que j'ai fait il y a 2 ans, voire même ceux de l'année dernière, ils y sont peut-être pas tous. Donc, la solution que je vous donne, pour avoir une valeur sûre, quelque chose qui reste, c'est-à-dire que si vous voulez écouter tous mes premiers épisodes, ça se trouve, il y en a qui m'écoutent que sur Apple Podcast et ils pensent qu'ils ont fait le tour de mes podcasts, mais c'est pas le cas. Je vous garantis qu'il y en a bien plus qui vous attend d'ailleurs. Abonnez-vous sur YouTube. Alors, vous allez sur YouTube, je vous mets un lien dans les notes là de l'épisode. Vous avez un lien qui s'appelle écoutez ce podcast sur YouTube à cette adresse. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche si vous avez envie de recevoir une notification ou autre, mais au moins vous allez avoir accès à la playlist complète de tous mes podcasts. Donc, c'est-à-dire que les anciens, les nouveaux, tous. Et au moins, vous serez avertis de ça. Vous n'aurez pas besoin de vous connecter pour savoir s'il y en a un ou pas. Donc, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, et comme ça, vous êtes tranquille. Parce que toutes les plateformes de podcast, elles font comme un espèce de ménage. Bon, bah ça, c'est bon, ça date de 2019, on enlève. Non. Moi, je fais pas un podcast 100% actu. Il y a quelques actus dans mes podcasts, mais je fais aussi des podcasts où je réponds à des questions. Et ces questions-là, quand j'y ai répondu, j'essaye de pas trop revenir dessus. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir des réponses qui ne seront plus traitées. Donc, allez voir les anciens, c'est quand même important. Bon, fin de la petite présentation de cette problématique. Voilà. Troisième chose, je voudrais répondre à une question. Alors là, la question va être longue, elle m'a un petit peu touché, donc je vais prendre du temps pour vous la lire, pour bien comprendre. C'est un sujet assez particulier. Alors, la question, j'ouvre mon petit dossier des questions. Alors, sachez que pour me poser votre question, vous avez également un lien dans les notes de l'émission qui s'appelle « Posez votre question ici ». C'est un formulaire anonyme et vous pouvez poster n'importe quelle question. Il n'y a pas d'adresse email, il n'y a pas de prénom. Vous allez-y, franco, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'a fait cette auditrice, visiblement. Alors, je vous lis la question. Bonjour Théo, voilà, j'ai une problématique, je sais d'avance qu'elle ne sera pas très facile à traiter, mais j'aimerais tellement que tu m'apportes quelques pistes de réflexion. Je suis désespéré concernant ma situation et je ne sais plus quoi faire. Alors voilà, je suis une femme de 20 ans, assez jeune, mesurant 1m65 et je pèse en ce moment 74 kg. J'ai commencé le sport à 16 ans, donc en 2016. Au début, c'était seulement du cardio et des cours collectifs. Puis en 2017, j'ai commencé à m'intéresser à la prise de masse, sans pour autant être focus sur la musculation. Je musclais seulement le bas du corps. En été 2017, j'ai commencé ma première sèche. Elle était drastique. Sur le coup, je ne me rendais pas compte puisque je voyais que je perdais du poids très vite. 800 à 1000 calories par jour. Aucun glucide, pas de gluten ou encore de produits laitiers. En l'espace de 10 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Puis arrive septembre 2017 où commence l'enfer. En effet, j'ai commencé à développer des TCA. Donc TCA, ce sont des troubles du comportement alimentaire. Je compulsais sur la bouffe en permanence. Je mangeais ce qui me faisait réellement plaisir et ce que je me suis privé durant cette perte de poids. Depuis septembre 2017, je suis boulimique, vomitive. Donc boulimique, vomitive, en fait la boulimie, pour expliquer aux gens, c'est quand les personnes mangent sans avoir faim, donc un petit peu sous des pulsions. Et vomitive, c'est vomir, c'est une stratégie de compensation, comme les laxatifs pour certains, comme l'excès de sport, etc., etc. Donc la boulimie, comparée à l'hyperphagie, la boulimie, c'est on mange à outrance et il y a une stratégie derrière de compensation, vomir, les laxatifs, excès de sport. Et à l'inverse, l'hyperphagie, c'est la même chose que la boulimie, sans stratégie de compensation derrière. Donc c'est-à-dire qu'on fait rien derrière, on reprend son alimentation normale. Donc voilà, depuis septembre 2017, je suis boulimique, vomitive, puis un an après, j'ai arrêté de vomir, mais je compensais autrement. Sport, du jeûne, etc. Jusqu'à l'été 2019, où là, j'ai découvert le jeûne intermittent. Je l'ai mis en place, puis je me sentais mieux. Enfin, inconsciemment, je me disais que tant que je dépassais 16 heures de jeûne, je pouvais consommer ce que je veux. Bien entendu, j'avais perdu un peu de poids, mais direct, dès que j'ai arrêté, j'ai repris mes kilos. Désespéré et fatigué, j'ai lâché prise. Côté entraînement, je me donnais toujours à fond. J'avais un entraînement basé push-pull legs, couplé à de l'entraînement axé powerlifting. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le push-pull legs, push, c'est des mouvements de pousser. Donc, vous faites une séance où vous faites que des mouvements où vous poussez. Pull, c'est des séances où vous tirez. Donc, tous les mouvements où vous allez tirer plutôt en flexion. Et leg, c'est des séances bas du corps. Donc, couplé à l'entraînement axé powerlifting, donc des entraînements de force. Puis vient le confinement en mars 2020. Comme j'avais très peur de grossir, j'ai commencé à me consoler, à me contenter que d'un seul repas par jour. Je me disais que j'allais perdre du poids. Je faisais beaucoup de cardio et je maintenais mes entraînements de musculation à la maison. Effectivement, j'en ai perdu. Suite à ça, j'ai eu des commentaires positifs sur mon physique, mais pour moi, ce n'était pas assez. Il fallait que je change ma manière de m'alimenter. J'ai commencé à calculer mes calories, mais impossible pour moi de tenir plus de 3 jours. Depuis plus d'un mois, mes crises de boulimie sont revenues. Je ne sais pas et plus quoi faire. J'ai l'impression que rien marche sur moi. Comment retrouver un rapport sain à la nourriture ? Comment s'alimenter sans que cela devienne une obsession ? Enfin, comment arriver à perdre du poids sans culpabiliser ? Merci à toi. J'espère que tu auras lu ce gros pavé. Je te remercie. Hop là, le micro est parti. Je te remercie pour ton investissement et ton travail pour nous fournir du contenu de qualité aussi bien gratuit que payant. D'ailleurs, je suis passé à l'abonnement VIP et je ne regrette pas car j'ai appris beaucoup de choses grâce à ton contenu VIP. Merci pour ton soutien. Merci encore pour ça. Alors, eh bien écoute, je vais te répondre en plusieurs temps. La première chose, et c'est la chose qui me saute le plus aux yeux, c'est que tu fais partie des gens de l'extrême. Quand je dis des gens de l'extrême, c'est comme ça que moi je les perçois. Je pense que ce sont des gens qui ont besoin d'avoir des choses significatives devant les yeux pour avancer. L'avantage de ce genre de personnes-là, c'est que quand tu te lances dans quelque chose, tu le fais à fond. Mais la problématique, c'est que tu attends des résultats rapides. C'est-à-dire que c'est un petit peu, je vais te donner un exemple, mais c'est un petit peu comme une personne qui mettrait des euros en bourse, donc qui achèterait des actions et qui attendrait immédiatement de gagner, d'être rentier. Et c'est une personne qui, dans l'extrême, ferait des mauvais choix, mettrait trop d'argent à droite ou à gauche ou vendrait à des mauvais moments et donc, du coup, peut-être perdrait son argent. Là, c'est un petit peu la même stratégie. En fait, toi, tu veux être bien maintenant. Donc, tu as eu des retours positifs, ça veut dire que le regard des autres t'importe beaucoup. Le regard des autres, c'est important. Ok, ça peut nous motiver, nous démotiver, ou alors nous apporter peut-être des petits coups de fouet à des moments où on se laisserait un petit peu trop aller. Mais n'oublie pas une chose, c'est que plus les années vont passer, plus être en forme va devenir quelque chose de rare autour de toi. C'est-à-dire qu'à 20 ans, aujourd'hui visiblement t'as 20 ans, donc t'es jeune, franchement t'es tranquille, pas de problème. À 20 ans, la compétition entre toi et les autres, elle est rude. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes à 20 ans, beaucoup de nanas, donc je vais prendre le cas des nanas, mais ça marche aussi pour les mecs, mais c'est un petit peu différent. À 20 ans, vous êtes toutes très, on va dire, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais vos atouts de féminité, etc., ils sont quasiment présents chez toutes, sauf celles qui sont malheureusement sujettes à l'obésité ou vraiment à l'anorexie, etc., qui, elles, malheureusement, ben, elles sont dans les extrêmes. Et elles le savent. Enfin, voilà, c'est penser à une chose, être obèse à 30, 40 ans, c'est dur, mais être obèse ou anorexique à 20 ans, c'est très compliqué. C'est une période de la vie, les 20 ans, où l'apparence physique compte énormément. Et quand je dis elle compte énormément, elle compte vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on ne vise pas, il faut savoir une chose, c'est que l'apparence physique, c'est aussi pour la séduction. Donc homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe les orientations sexuelles des uns et des autres. L'apparence physique à 20 ans, c'est ce qu'il y a tout en haut, en tête de liste. C'est-à-dire que c'est le marqueur fondamental pour l'attraction en fait, entre les individus. Ce qui change à 30 ans, ce qui change à 40, ce qui change à 50, ce qui change à 60, les buts ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'après, je ne vais pas vous faire un podcast là-dessus, mais à 20 ans, gardez bien en tête que l'apparence physique, dans le ratio des qualités recherchées, c'est vraiment quelque chose qui se place tout en haut de la liste. Et malheureusement, on a beau essayer de lutter contre ça, pour les femmes, c'est très important. Bref. Donc, tu es dans une configuration délicate. Mais, sache une chose, c'est qu'à 20 ans, beaucoup de personnes qui t'entourent t'as beaucoup de compétition, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui sont très bien physiquement à 20 ans. Il y a beaucoup de nanas de 20 ans qui sont très belles, très bien foutues, etc. Et certaines sans faire de sport, en mangeant un petit peu ce qu'elles veulent. On en connaît toutes, tous et toutes. Donc, ce qui peut se passer pour toi, c'est que bah, t'es pas, peut-être pas doué, aussi doué génétiquement, ou t'as pas autant de facilité que ces nanas-là pour être en forme. Mais dis-toi bien une chose, c'est que vise long terme. Si je peux te donner vraiment un conseil, vise long terme. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à tes 30 ans, et 30 ans c'est jeune, je te garantis que d'être en forme physiquement à 30 ans, et d'ailleurs ça sera donc dans 10 ans pour toi, donc je suis pas pressé de voir à quoi va ressembler le monde de la diète et de la sédentarité et tout dans 10 ans, je peux te garantir qu'à 30 ans, une personne, homme ou femme, qui ne fait pas attention, que ça soit au niveau de la diète ou du sport, le physique, il a vraiment, vraiment, vraiment pris cher. Donc du coup, la compétition que tu as aujourd'hui à 20 ans, elle est difficile. À 30 ans, elle sera hyper facile. C'est-à-dire que tu vas te démarquer des autres. Démarquer des autres par ton physique. Et je tiens à te dire que le ratio physique, apparence physique, compte encore beaucoup à 30 ans. Hein. Et il comptera même toujours. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui se mettent en avant également. Donc déjà, première chose, vise long terme. Et pour viser long terme, il ne faut plus avoir cette stratégie que tu as, toi, du court terme. La stratégie du court terme, comment elle s'observe chez toi? Elle s'observe chez toi par les 800 à 1000 calories par jour. Aucun glucide, pas de gluten, pas de produits laitiers. En fait, tu es dans une stratégie court terme que tu veux appliquer sur le long terme. C'est-à-dire que des diètes comme ça, hyper violentes, c'est des diètes, par exemple, de personnes qui veulent vraiment perdre avant une compétition ou avant un événement X ou Y. Enfin voilà, il y a un but, il y a une date. Et toi, tu n'as pas de borne. Quand je te dis tu n'as pas de borne, c'est que tu n'es pas borné par un événement. Être borné par un événement, par exemple un boxeur est borné par son combat, un judoka par son combat, un coureur par son marathon, un footballeur par son match, etc. Toi, tu n'as pas de borne, tu n'es pas borné dans le temps. C'est-à-dire que en l'absence de borne, tu ne sais pas quand t'arrêter. Et la problématique, c'est que quand tu ne sais pas quand t'arrêter, ton corps va t'arrêter. Et comment il fait pour t'arrêter? Ben c'est qu'au bout d'un moment, quand tu consommes 800 à 1000 calories par jour, ton corps, non seulement il manque d'énergie, donc au bout d'un certain temps, au début d'une sèche, d'un régime, etc., quand on a des kilos de gras à perdre, qu'on a des bonnes réserves de glycogène et qu'on se réalimente régulièrement pour refaire le plein, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Le corps comprend qu'il se passe quelque chose, il a du mal à libérer du gras parce que le gras, encore une fois, c'est pas la vie, le gras c'est la survie. Rappelez-vous d'une chose, c'est que moi, vous savez ce dicton qui dit le gras c'est la vie, moi je vous dis le gras c'est la survie. Pensez comme ça, vous comprendrez mieux. Donc le gras c'est la survie, donc le gras va être difficile à délocaliser, que même avec la meilleure sèche du monde. Vous allez perdre du gras, mais ça va pas être dans la facilité. Donc, au bout d'un moment, ton corps, quand tu vas perdre du gras, il va commencer aussi à perdre certains apports en micronutriments. J'avais parlé récemment de l'approche et de la théorie, comment ça s'appelait déjà ? Triage, qui disait plus ou moins que le corps utilise les micronutriments, etc., donc vitamines, oligo-éléments, minéraux, sur le court terme pour ce qui est aigu, ce qui est à traiter dans l'immédiat. Une problématique, une inflammation, un organe qui flanche, etc. Mais donc du coup, sur le long terme, il va taxer ce qui était prévu sur le long terme pour du court terme. Donc ce qui peut créer à long terme, même à moyen terme, une forme de carence. Et à ton avis, comment le corps peut s'exprimer pour te dire qu'il manque de ça, de tel ou tel micronutriment? Eh bien en fait, ça va se traduire par un appétit démesuré. En fait, il va te réclamer ce dont tu le prives. Alors toi, tu vas avoir l'impression que c'est des glucides, tu vas avoir l'impression que c'est du gras, que c'est ça qu'il faut que tu manges, mais en fait, ton corps cherche, par exemple, si tu as des envies de sucré, peut-être que c'est des problèmes en vitamines, et que lui, il t'orienterait plutôt vers des fruits, des choses comme ça, mais qu'il y a de la boulimie sur d'autres aliments. Donc, j'essaye de tu vois là, t'es peut-être en train de te dire, mais tu me donnes pas réellement de conseils concrets. Je veux pas réellement te donner de conseils concrets. Moi, ce que je veux, c'est te donner une philosophie un petit peu différente. Entretiens ton corps pour le long terme. Et entretenir son corps pour le long terme, c'est pas avec des diètes à moins de 1000 calories par jour. Préfère manger plus et de bouger plus que de manger moins en bougeant un peu. C'est bien de faire du sport, le minimum, le 30 minutes par jour, c'est bien, mais ne réduis pas ton sport au minimum syndical. Préfère faire plus de sport qui te permettra de manger beaucoup. En mangeant plus, tu peux même être en légère hypocalorie en mangeant plus. C'est-à-dire que si tu décides de faire un peu plus de sport, tu mangeras plus. Donc du coup, tu auras un apport en micronutriments qui sera également un peu plus important. Vois les choses plus comme ça. Mange, mange, mange. Beaucoup de personnes pensent que moi, personnellement, je mange peu parce qu'ils voient une assiette de temps en temps. Mais je mange beaucoup, en fait. J'ai souvent des repas et la densité nutritionnelle que j'ai est assez importante. Je mange à ma faim. Et je mange des choses qui m'apportent beaucoup de micronutriments. Je prends également des compléments alimentaires. Mais garde bien ça en tête. Vise le long terme. Quand tu es dans une période où tu es à moins de 1000 calories par jour, avec beaucoup de sport et un mental qui flanche un peu à cause de tout ça, tu ne peux pas espérer trouver comme ça, en claquant des doigts, une méthode qui va te guérir. Te guérir ou te sortir de cette situation. Ce qui va te sortir de cette situation, c'est de la vitalité. Et comment retrouver de la vitalité ? La vitalité, c'est quand tu as un bon équilibre. En fait, pour moi, la vitalité, je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est ma théorie personnelle. L'homme est fait pour être, en fait, à mi-chemin entre deux états. Un état où il n'a pas de vitalité du tout et un état où il a beaucoup trop de vitalité qu'il ne peut pas gérer. Et donc, en fait, quand il est dans cette zone idéale, entre deux, il a une bonne vitalité. Et qu'est-ce qu'on pourrait appeler avoir une bonne vitalité ? Avoir une bonne vitalité, c'est quand tu manges et quasiment tout ce que tu manges, tu sens que tu le digères bien. Certains anciens appellent ça pouvoir faire feu de tout bois. C'est-à-dire un petit peu, tu sais, l'adolescent qui dort 10-12 heures par nuit, qui fait du sport, qui mange n'importe quoi et qui a aucun problème digestif et tout. On dit qu'il a une bonne vitalité et il peut faire feu de tout bois. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais par rapport... On a tous déjà entendu, toi qui as 20 ans, t'as déjà entendu ça aussi, quelqu'un qui disait « Oulala, mais moi je peux pas manger autant de chocolat parce que je serai malade ». Et souvent c'est des personnes qui ont 40, 50, 60 ans qui disent ça parce que ils se sont bien rendu compte que la vitalité baisse et leur capacité digestive et tout n'est pas aussi vaillante qu'à 20 ou 30 ans. Bon, déjà 30 ans, s'il y en a qui ont mangé mal toute leur vie, c'est déjà usé. Bref, la vitalité déjà c'est ça. Pouvoir faire feu de tout bois. La vitalité, c'est se sentir capable de. Donc, c'est être capable de se projeter aussi, de se dire, bon, ben, j'ai la capacité, je me sens capable de ça. Et ça, le sport aide à ça, en fait, hein, parce que le sport te permet de voir tes limites, de voir où est-ce que tu es capable d'aller. Donc, du coup, le quotidien te paraît beaucoup plus simple. Mais pourquoi je te parle de vitalité ? Parce que quand tu fais beaucoup de sport, tu perturbes ton sommeil parce que tu manges plus assez, tu fais beaucoup de sport, tu as du stress, ton sommeil est perturbé, tes journées, tu sens de l'anxiété et tout ça. Tu demandes beaucoup à ta vitalité. C'est-à-dire que ta part de vitalité, imagine que tu te réveilles le matin avec une jauge de vitalité qui est pleine, eh ben, tu vas la dispatcher entre les diverses choses que tu vas faire dans la journée. Quand tu attaques d'entrée de jeu avec un mauvais sommeil, déjà ta jauge n'est pas pleine, donc ta vitalité n'est pas au top. Tu es stressé, donc tu vas taper dedans. Ta capacité digestive est réduite parce que tu es au régime, donc ta vitalité va baisser encore, etc., etc. Tu vas faire du sport, etc. Donc du coup, tu vas arriver à midi, ta vitalité sera déjà morte et on a besoin de vitalité pour se régénérer, pour se réparer, pour penser, pour agir, pour faire tout un tas de choses dans la journée. Donc ça, c'est la situation où ta vitalité manque. Et ensuite, tu as la vitalité qui est en excès. Alors certains vont se dire la vitalité en excès c'est bien parce qu'on pète la forme et tout. Non, ça c'est la vitalité optimale. La vitalité en excès, c'est, je vous dis ça pour schématiser. Hein. En fait, la vitalité en excès c'est quand on apporte trop, on mange beaucoup. On mange beaucoup, on prend du poids, on prend du poids, on prend du poids, on prend du poids. Au début, on n'en prend pas trop, donc on se régénère. Donc toi, par exemple, quand t'es dans une situation où t'as trop peu mangé et donc du coup, t'as perdu beaucoup de poids, ton corps au début va refaire un petit peu des stocks, etc. pour te remettre une bonne vitalité. Ce qui ne veut pas dire que le physique dans le miroir va te plaire, mais en tout cas, ton corps va recréer des conditions optimales au niveau de ta vitalité pour que tu te sentes bien au niveau santé et tout. Après, tu pourras bosser là-dessus avec l'entraînement et des ajustements, mais il va chercher à te remettre en selle au niveau de la vitalité. Mais une personne qui mangerait trop, donc une personne quand elle arrive au stade obèse, pour moi, c'est une personne qui est en excès de vitalité. Et en fait, cet excès de vitalité, le corps ne sait pas quoi en faire. Donc, imaginez avec des petits bras que ça arrive, trop de vitalité, et ça s'effondre. Et au bout d'un moment, il faut le dispatcher, donc on le stocke. On stocke du gras dans le ventre, dans les jambes, un peu partout. Et cet excès, c'est ces tonnes et ces tonnes de vitalité qui abondent dans le corps, eh ben, ça rend malade parce que ça épuise. Et donc pour moi, c'est un petit peu l'image que j'essaye de vous donner de ce que peut être l'obésité. Un excès de vitalité, un excès d'énergie, un excès d'apport, de nutriments, etc. qui viennent se stocker et qui viennent faire effondrer le corps sous cette abondance. Donc, trop de vitalité, non. Pas assez, pas bien non plus. Il faut se trouver dans la zone optimale. Et la zone optimale, tu peux l'obtenir que si tu manges ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas espérer être au top avec 800 à 1000 calories. Tu ne peux pas espérer être au top en quelques jours comme ça, en claquant des doigts. Vise le long terme. Si tu vises le long terme avec une approche cohérente, c'est-à-dire essaye d'avoir les meilleurs réflexes alimentaires possibles maintenant, à 20 ans, si tu les as maintenant, dis-toi que tu les garderas toute ta vie. Donc c'est quoi ? Essaye de manger le moins transformé possible. Des aliments, ben voilà, je sais pas, habitue-toi à aller faire des marchés de temps en temps, de la viande de bonne qualité, du poisson de bonne qualité, enfin en tout cas des aliments bruts, non transformés. Fais du sport, écoute-toi. Quand t'es fatigué, quand t'es pas fatigué, etc. Mais remets-toi en selle tout doucement, mais mange et à ta faim, mais des bonnes choses. Et tu verras que si tu manges à ta faim des bonnes choses, c'est difficile de prendre du poids. Parce que c'est très difficile d'avoir beaucoup de calories quand on mange sainement. Des gens qui disent « j'arrive pas à perdre du poids alors que je mange sainement », je demande à voir. Je demande à voir parce que souvent le sainement, c'est que les gens mangent certes du riz brut, donc non transformé, du riz comme ça, mais ils en mangent trop. Mais c'est pas ça en fait manger sainement, c'est avoir une forme de hiérarchie dans son assiette et d'équilibre par rapport à ce qu'on fait de sa journée. Quelqu'un de sédentaire qui mangerait des grosses assiettes de riz, c'est pas raisonnable en fait. Il a pas besoin d'autant de réserves énergétiques comme ça, sous forme de glucose. C'est pas logique. Donc vise ça, vise le long terme, et ton corps, tu verras qu'il va commencer à te répondre, à parler. Non, il va pas parler, mais il va commencer à te dire là, t'es apte à faire telle ou telle chose. N'oublie pas que les TCA, moi je gère pas la sphère psychologique, je suis pas psychologue hein, ou ni psychiatre ni tout ça, donc je pense que si toi tu penses vraiment vivre ce genre de trouble, va voir un psy. Enfin voilà, les psys en France c'est mal vu, enfin c'était mal vu, je sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, mais pour moi je vois plutôt le psy comme quelqu'un qui se laisse pas aller, vous savez, dans l'entourage. Vous avez peut-être des amis, ou peut-être vous avez la capacité de pouvoir parler avec, je sais pas, votre papa, votre maman, vos grands-parents, et de vous livrer, de leur poser des questions, de leur parler de vos peurs, de leur parler de vos problèmes. Et ils vous écoutent, ils ont des bons conseils, etc. Mais dites-vous qu'il y a des personnes, et peut-être vous n'avez pas cette relation privilégiée. C'est-à-dire que vous êtes souvent la personne à qui on vient se plaindre, ou à qui on vient demander conseil, mais vous n'avez personne à qui vous livrer. Et moi, je pense que ces personnes ont tout intérêt d'aller voir un psy, non pas pour je ne sais pas quelle raison, mais juste pour s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir se placer en position de celui qui a besoin d'aide, et pas celui qui donne de l'aide. Parce qu'on le voit beaucoup, ces personnes qui donnent tout aux autres, et qui, eux, ne sont pas capables de se reposer, de se détendre, etc. C'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas forcément, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont pas créé de lien, soit avec la famille, soit avec un ami ou autre. Et donc, une personne un petit peu extérieure, etc., ça peut aider. Donc voilà, n'ayez pas honte de ça. Beaucoup d'Américains le font. C'est d'ailleurs bien mieux vu. C'est d'ailleurs bien vu d'aller voir un psy dans certains pays. Donc ne restons pas avec cette idée un peu trop bornée de français psy égale fou quoi. Non. Donc ça, toute la partie psychologique, c'est pas moi qui pourrais t'aider là-dessus, même si j'imagine que mon discours a dû déjà te mettre un petit peu certaines petites puces à l'oreille sur certains domaines. Mais en tout cas, voilà, pense vraiment... En fait, quand tu sens que tout ce qui est sphère d'entraînement, donc ta passion certainement, l'entraînement, la muscu et tout ça, commence à se dégrader, c'est que là, t'es plus dans le vrai. Quand t'as un doute, reviens aux fondamentaux, reviens aux basiques. Abandonne ton jeûne intermittent, tous ces trucs-là qui sont que des stratégies. Reviens aux fondamentaux. Manger sainement, manger souvent et s'entraîner. Bien dormir et tout. Tu t'en fous de la comparaison avec les autres. Tout le monde... Enfin, pense une chose, c'est que chaque jour qui passe, quand tu as cette stratégie que je viens de te dire là, chaque jour qui passe, tu vas être de mieux en mieux. Tu vas pas le voir tout de suite. Mais c'est-à-dire que là, à 20 ans, si tu commences à t'entraîner, manger sainement, faire du sport, je sais pas, peut-être 5 fois par semaine, de te faire alors à 20 ans, profite hein, si t'as envie de boire du ça me fait penser au film, je sais pas si vous avez vu le film Barbecue où Lambert Wilson dit au gosse à un moment, bah, allez profite de la vie, va bois du coca, va au McDo et bois du coca et le rouge hein, pas le zéro. Ben c'est un peu ça à 20 ans, fais-toi plaisir le week-end, bois du coca si t'as envie, bois ta DSP, bois, enfin voilà, fais-toi plaisir quoi, tu vois, il faut pas t'empêcher de vivre, t'as 20 ans, vis tes années, enfin c'est des belles années à 20 ans quoi, vis-les à fond. Mais si t'as envie d'aller plus loin, si t'as envie d'aller loin physiquement et tout, aie quand même une certaine discipline, la semaine ou alors à des, enfin, il faut que ta balance aliment sain représente quand même les deux tiers de ta semaine quoi. C'est au moins ça. Et puis du sport. Le sport. Habitue-toi à ça. Ton corps, il va te remercier. À 30 ans, tes copines, elles vont te dire, mais toi, t'as de la chance, t'as une bonne génétique et tout, parce qu'elles ignoreront qu'à 20 ans, t'en as galéré. T'as galéré pour être bien. Ta vengeance, tu la prendras à 20 ans. Tu seras, à 20 ans, pardon, à 30 ans. Ta vengeance, tu la prendras dans 10 ans, quoi, en gros. Les facilités, tu les et investis, franchement, pour l'avenir. Fais-le vraiment comme ça, parce que je te dis, c'est vraiment, et j'aime pas dire ce genre de choses, mais pour les femmes, les belles années, entre guillemets, hein, quand je dis les belles années, en tout cas les années simples, je préfère dire ça comme ça, les années simples, c'est plutôt à 20 ans. Pour les hommes, c'est plutôt à 30. À 20 ans, un homme, c'est les années compliquées. C'est-à-dire que à 20 ans, un mec, physiquement, bah, il a pas un corps d'homme encore, mentalement, bah, faut dire ce qui est, hein, à 20 ans, enfin bon. Voilà, à 20 ans, on était, enfin moi, j'étais pas une flèche, et voilà, à 30 ans, on est mieux, les mecs. Mais à 20 ans, les femmes, elles sont déjà plus mûres, plus matures, enfin en tout cas que les hommes équivalents à 20 ans. Et physiquement, en général, elles sont au top. Il y a une forme de et d'ailleurs vous le voyez, hein, c'est pas pour rien que les mecs, vous savez, les bonhommes riches, les acteurs et tout, souvent ils reviennent, hop là, quand leur nana elle a pris un peu trop de bouteilles, ils reviennent, et souvent c'est des nanas de 20, 21, 22 ans. Il y a une réalité, en fait, on l'observe. Ça veut pas dire que je le valide ou que c'est moral ou immoral, c'est juste une observation qu'on peut faire. Mais tout comme un homme peut être bien à 20 ans, s'il se cultive, enfin voilà, une femme peut être bien à 30, à 40, à 50, à 60, à partir du moment où elle s'entretient. Donc, ça vaut pour les deux, les hommes et les femmes, mais investis pour l'avenir. C'est-à-dire que tu peux déjouer un petit peu ces règles sociétales, sociales, qui se sont un peu imposées à nous au fil des décennies là, qui sont passées, en investissant sur toi en termes de bonne alimentation et tout ça. Bon, je m'arrête ici parce que je voulais pas faire un truc trop personnalisé, dans le sens où je voulais pas trop m'attarder sur quoi manger, quand manger, parce qu'en fait c'est entretenir le mythe du petit détail que t'aurais oublié qui ferait que ça te sauverait la vie. En fait, c'est un style de vie global qu'il faut que t'appliques. Et je pense que quand on oscille entre sèche extrême, prise de masse, sèche extrême, boulimie, toutes ces choses-là, c'est qu'en fait, on n'a pas encore accepté que le style de vie qu'on doit appliquer n'est pas celui qu'on veut. Celui qu'on doit appliquer, c'est un style de vie différent. C'est-à-dire un style de vie qui va... En fait, il n'y aura pas de « quand est-ce que je vais pouvoir recommencer à manger comme avant ?» C'est-à-dire les aliments qui m'ont rendu gros, grosse ou en mauvaise santé. Ça ne reviendra jamais. Tu pourras les manger de temps en temps pour te faire plaisir. Mais tu ne peux pas reprendre un style de vie qui t'a conduit à être mal. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait aujourd'hui qui t'ont amené à être mal, eh ben, il faut cette stratégie. Ok, t'as testé, c'est une erreur, c'est parfait. C'est comme dans la science. T'as testé, Si t'as fait un essai-erreur, ça n'a pas fonctionné. Tu peux recommencer avec un autre essai. Et moi, en ayant un peu d'avance sur toi, quand même, au niveau de ma pratique et de mon expérience, je peux dire que, m'enchaînement, inspire-toi peut-être de mes travaux, hein. T'es dans l'espace VIP, donc tu sais, voilà, plus ou moins ce que je recommande, mais vise moyen-long terme et vise pas court terme. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Un sujet un petit peu plus léger. J'ai fait ce week-end 13. Je vous ai proposé 13 supersets à faire à la maison pour aller un petit peu dans le thème de la situation actuelle. Des supersets à faire avec un banc et deux haltères seulement. Pas besoin de plus d'équipement. Ciblé par exemple sur le bas des quadriceps, sur le galbe des fessiers, sur les pectoraux, sur les biceps. En fait, des muscles que les gens ont souvent du mal à recruter. Je vous ai fait ça. Les vidéos sont filmées. Il y a ma voix off. Il y a tout. Le lien, vous l'avez en description pour aller voir. Et enfin, dans les notes du podcast. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous et activez la petite cloche sur YouTube pour tous mes podcasts, parce que forcément, si vous les écoutez ailleurs, vous n'avez pas l'intégralité des épisodes. Voilà, le lien est dans les notes de l'épisode. À très bientôt. Bye bye.
Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles, hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.